Vous n'étiez pas là ? Et vous vous êtes renseigné sur ce qu'on a appris la semaine dernière ? C'est sûr ? Donc, en tout cas, ne laissez pas des trous s'installer, sinon vous n'arriverez pas à suivre. Alors écoutez, je vous ai donné la dernière fois des références à préparer. Ça, on s'en occupera dans la deuxième partie du cours. Je voudrais d'abord terminer ce qu'on a commencé la première fois. Ce qu'on a commencé, oui, la semaine dernière. Je vais vous rappeler d'ailleurs tout de suite le moment précis de l'étude où on est arrivé. Alors je vous rappelle que j'aimerais bien, si vous prenez des notes, que vous ayez un cahier ouvert sur deux pages. Sur une page, vous mettez les notes du cours à proprement parler. Et sur l'autre, si vous avez nécessité, vous mettez les références annexes, les parenthèses, les sujets qui viendront se greffer. C'est en général comme ça qu'on étudie sur un texte. Il y a énormément d'incidents, mais il ne faut pas que ça gêne le déroulement de vos notes sur le cours à proprement parler. Maintenant, d'autre part, je crois que j'ai oublié de vous dire ça la dernière fois, mais je tiendrai à ce que vous gardez chaque fois la place que vous avez. Ne cherchez pas à comprendre, ce n'est pas de la sorcellerie. Parce que, comme je ne connais pas vos noms, je suis habitué à me rappeler de quel côté quelqu'un a dit quelque chose ou a eu une, comment dire, ma batte panime, une mimique qui me fait comprendre s'il a compris ou pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Okay. Et alors, ne me donnez pas des mots de tête à changer vos échiquiers. Reprenez chaque fois la place que vous aurez. D'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous ont changé de place. C'est vrai ou pas ? Bon, c'était inévitable. Pour la première fois, mais faites bien attention à cela, sinon ça nous fait perdre du temps. Bon, alors nous avons posé un certain nombre de questions la dernière fois sur l'objet du récit du premier chapitre du livre de la Genèse. Qu'est-ce que la Torah veut nous communiquer comme information essentielle en nous donnant ce texte par écrit ? Il y a toute une question chez le commentateur de savoir pourquoi ce premier chapitre de Bréchit est mis par écrit. Je ne vais pas étudier ça en détail, mais retenez simplement que l'argumentation générale est que, étant donné que c'est un texte incompréhensible par lui-même, il aurait dû être réservé à l'enseignement oral qui est réservé aux initiés de ce qu'on appelle en hébreu les sitrei Torah, les secrets de la Torah, parce que personne ne comprend en réalité les concepts qui sont employés par la Torah. Je vous ai donné un premier petit exemple la dernière fois lorsqu'on a réfléchi sur le concept de création. Je rappelle très brièvement, je ne voudrais pas prendre autant de temps que la dernière fois, c'est un mot qui véhicule une révélation de la Torah que le monde est créé. Et nous sommes tellement familiers à l'évidence de vérité de cet enseignement qu'on risque de prendre, à cause de cette familiarité, cette notion comme compréhensible par la raison humaine, ce qui n'est pas le cas. Et vous vous habituerez d'ailleurs dans beaucoup d'exemples de ce que la Torah enseigne à ce principe. La Torah est révélée. Ça veut dire que si elle ne révélait pas ce qu'elle nous dit, on ne pourrait pas le savoir par nous-mêmes. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire ? Regardez pas ce qui se passe là-bas, ça se passe dans vos livres. Ne vous laissez pas distraire. Ce sont des choses que vous découvrez et qui sont difficiles lorsque vous les découvrez la première fois. Alors, on n'est pas ici en cinéma permanent. Hein ? Vous étudiez. Alors, si je vous pose une question, réfléchissez à la question. Okay ? Si je vous demande si c'est clair ce que je viens de dire, répondez-moi, je ne peux pas le deviner. Alors, ce que je suis en train de vous expliquer est extrêmement important. La Torah, c'est une révélation de Dieu à l'homme. Et le contenu de ce que cette révélation nous donne se définit comme étant que l'homme est incapable de le comprendre par lui-même, sinon ça ne lui serait pas révélé. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Par conséquent, il ne faut pas tomber dans le piège de croire qu'il suffit de lire pour comprendre. Il faut lire pour apprendre. Mais lorsqu'on rencontre une notion qui ne fait pas partie de la pensée humaine livrée à ses propres forces, il faut s'en rendre compte, le diagnostiquer, et je vais profiter d'ailleurs, ça fait rien si je vous prends un quart d'heure pour ça, pour essayer de vous faire comprendre à quel point ces termes clés de la Torah ne sont compréhensibles qu'en hébreu, et dans l'hébreu des prophètes. Ce sont les prophètes qui ont révélé la Bible. Et la Torah a été révélée par l'intermédiaire du plus grand des prophètes, qui est Moïse. Ce n'est pas n'importe qui que Dieu a choisi comme porte-parole de ces vérités qui nous sont transmises par la Torah. Par conséquent, retenez, fermez la porte parce qu'il y a du bruit dehors, retenez bien ce principe, c'est lorsque vous croyez, que vous avez compris, que c'est là qu'il faut être très vigilant et très attentif, qu'est-ce que j'ai compris? Parce que si la Torah l'a révélé, c'est que ça ne va pas de soi. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Faites bien attention à cela. Très souvent, je vous donne un petit exemple en passant, vous oublierez cette parenthèse pour vous éclairer. Très souvent, lorsqu'on est devant une expression difficile dans un verset, la Gemara, le Talmud dit « Dibra Torah Kilshon Bene Adam ». Je traduis, elle dit « La Torah a parlé selon le langage des hommes ». Alors, regardez bien le paradoxe. C'est quand on ne comprend pas que la Gemara dit « Pourquoi tu ne comprends pas ?» C'est parce que la Torah a parlé le langage des hommes. Vous voyez la contradiction? Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Oui, il faudrait qu'on s'attende à l'inverse. Et alors, je vous répète en hébreu, il n'y a pas d'Ibera Torah, l'Echon Bene Adam. La Torah a parlé le langage des hommes. Ça veut dire la Torah a parlé comme le langage des hommes. D'Ibera Torah, Kilshon Bene Adam. Il y a ce kaf de Kilshon Bene Adam. Je dis ça pour ceux qui savent déjà l'hébreu. Alors oui, il faut toujours citer de manière précise. La Torah n'a pas dit, la Gemara n'a pas dit dans cette citation, la Torah a parlé le langage des hommes. La Gemara a dit, la Torah a parlé comme le langage des hommes. Et vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire, la Torah a parlé le langage des hommes vrais. Pourquoi on ne comprend pas? C'est parce qu'on n'est pas à ce niveau des hommes dont la Torah a parlé le langage. La Torah parle le langage des prophètes, qui s'appellent les hommes dans cette situation. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Ne tombez pas dans la naïveté de croire qu'il suffit de lire une traduction pour comprendre ce qu'a dit le verset. Là, je vous ai parlé abondamment de ça la dernière fois, en vous montrant à quel point la lecture dépend du lecteur. Vous vous rappelez de cela? Et d'ailleurs, comment dit-on le texte de la Bible en hébreu? Le Mikra. Comment dit-on? On va traduire, mais comment le dit-on en français? Haram, réfléchis. Ça, c'est la Torah, le Pentateuque. Je vous explique, c'est une question de logique. Je vous ai demandé comment dit-on le texte de la Bible en français. En hébreu, tu avais répondu, ça s'appelle le Mikra. Les Écritures. Où est la différence? Qu'est-ce que ça veut dire Mikra? La lecture. Vous voyez, en hébreu, on dit la lecture, alors qu'en français, on dit l'écriture. Vous comprenez qu'il y a une différence de signification, okay? Alors, et ça induit, ça implique que finalement, on risque de tomber dans le piège de croire que c'est ce qu'on a lu qui est écrit. On a lu ce qu'on a lu, mais qu'est-ce qui est écrit? Vous avez compris la différence, okay? Est-ce que c'est clair? Vous savez, un de mes maîtres disait, dans chaque livre, il y a trois livres. Il y a le livre tel que l'auteur a voulu l'écrire. Il y a le livre tel que le lecteur le lit, et puis il y a le livre en lui-même. C'est trois niveaux différents d'études. Habituez-vous à cela. C'est l'expérience qui me mène à vous mettre en garde au début de vos études. Je vous rappelle les consignes élémentaires de la manière traditionnelle d'étudier. La meilleure des choses, c'est qu'il faudrait que vous ayez tout dans la mémoire. Les notes, si vous en avez besoin, c'est des béquilles. Mais une fois qu'on sait marcher, les béquilles, ça ne sert à rien. Ça empêche de marcher. Vous avez compris ça? Et je vous donne un autre exemple. Pour construire une maison, il faut des échafaudages. Mais quand la maison est construite, les échafaudages, il faut les enlever. Faites attention de ne pas tomber dans ce piège que c'est les échafaudages qui vont vous empêcher de construire la maison. Vous avez compris pour vous? La Torah chez Baalpé, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est la Torah orale. Il faut que vous l'ayez dans la mémoire. Bon, si vous avez une note, prenez des notes, mais faites attention que ce soit clair, même pour vous. Vous aurez par expérience le fait que des fois, vous prenez vos notes, 3 mois après, vous n'y comprenez rien, vous-même. Faites l'expérience, vous verrez. Et alors, si jamais ça tombe entre les mains de quelqu'un d'autre, vous avez tué quelqu'un qui, de bonne foi, a cru que c'est ça qui s'est dit dans le cours. Vous avez compris ce que je veux dire? Et alors, je reprends cet exemple. Quand je dis créer, qu'est-ce que je veux dire en français? utilisez ce que vous avez déjà entendu la dernière fois. Qui peut répondre? Quand je dis créer, qu'est-ce que je veux dire? Quelle est l'idée essentielle qu'il y a dans le mot créer?
Oui, partir de rien.
Parle plus fort.
Fabriquer à partir de rien.
Hein?
Fabriquer à partir de rien.
Fabriquer, c'est pas le mot. C'est un autre mot.
C'est
le mot
étudiant.
Non, laisse ça de côté. Retiens, à partir de rien, c'est exact. Vous voyez? À partir de rien. Faire apparaître à partir de rien. Est-ce que c'est en fabrication ou en autre manière? C'est d'autres termes, d'autres catégories. Mais l'idée essentielle, c'est à partir de rien. Comment ça se dit en hébreu? Yesh me haïn. Alors vous voyez bien qu'il y a une contradiction entre yesh et haïn. C'est le contraire. Haïn, ça veut dire rien. Yesh, ça veut dire il y a. C'est clair? Yesh me haïn. Il y a à partir de il n'y a pas. C'est pas que c'est pas vrai. C'est ce que la Torah enseigne en disant baro, bria. Mais ça ne fait pas partie de la raison humaine. Ça nous est révélé. Vous avez compris? Alors, ne tombons pas dans le piège de croire, c'est une idée rationnelle. C'est un objet de foi. Je sais que le monde a été créé parce que la Torah l'a dit. Si la Torah, et là je cite Maïmonide, si la Torah ne l'avait pas dit, je resterais dans le doute. Est-ce que vous avez compris cette idée? Okay. Et ça vous explique pourquoi il y a des gens qui, par eux-mêmes, naturellement, par leur nature, pensent et sont sûrs que le monde est créé, que ça va de soi, c'est évident. Il y en a d'autres qui ont une autre nature intellectuelle ou sensibilité qui pensent le contraire. Ça veut dire que la Torah ne peut pas confier son message à des différences de famille intellectuelle. La Torah parle pour la créature. La Torah parle pour les hommes tels que Dieu les a créés. Et donc la Torah ne va pas confier, encore une fois, ce qu'elle a à nous transmettre à la capacité de compréhension de tout un chacun. Une tradition ne se confie pas à des familles intellectuelles. Une tradition se confie à un peuple. Et dans un peuple, il y a toutes les manières de penser. Donc on ne peut pas se baser sur les manières de penser de chacun pour dire qu'est-ce que le livre a dit. Est-ce que c'est clair? Alors surtout pédagogiquement, je suppose quelqu'un, certains d'entre vous n'iront pas devenir un jour des éducateurs, pédagogiquement, ne tombez pas dans cette erreur, ne risquez pas de tomber dans cette erreur, de faire croire aux enfants que quelque chose est évident, alors que ce n'est pas du tout évident. Est-ce que c'est clair? Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, l'enfant va grandir, et puis il va découvrir qu'on l'a trompé, et il va tout rejeter. Ça arrive souvent. Vous avez bien compris ce que je veux dire? Alors retenez que la notion de création est un objet de foi. Je sais que c'est vrai, parce que j'ai des raisons de savoir que ce que la Torah dit, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que j'ai compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque ça ne fait pas partie de l'intelligence humaine, une notion comme créer. Je peux avancer, je peux aller plus loin? C'est clair jusque-là? Je dirais plus, ça ne fait partie que de la mentalité de la langue hébraïque des prophètes. C'est un mot qui, dans ce sens-là, n'existait qu'en hébreu. Toutes les traductions des autres langues ont adopté le sens hébreu lorsqu'ils traduisent la Bible. Mais c'est des mots différents, des concepts différents qu'ils emploient. Je vais vous donner rapidement. Oubliez toutes les étymologies, ça c'est des questions d'érudition de spécialistes, mais gardez l'idée. Les Bibles latines, par exemple, traduisent par un mot qui signifie « faire », un peu fabriqué. Pas exactement, mais presque. « Faire ». En latin, ça se dit « fecit », que Dieu a fait. Mais faire, c'est pas créer. Quand je fais quelque chose, j'utilise un matériau qui existe déjà. Et je l'agence autrement. En hébreu, la notion qui correspond à cette idée, c'est la yetzira, pas la bria. Hein? Vous voyez? Ça veut pas dire que dans d'autres langues, en se servant de mots qui d'abord signifient autre chose, par exemple le mot faire, on ne veut pas indiquer ce que la Bible des Hébreux disait en disant créer. Mais c'est passé adopté de la Bible des Hébreux. C'est clair? Retenez ce principe, ce postulat. C'est vrai pour tous les mots de la Bible. Nous avons un enseignement du Talmud qui est très clair. Surtout dans la Kabbalah, mais j'allais dire Kabbalah, il n'a pas voulu. Mais c'est déjà dans le Talmud. C'est que tous les mots de la Bible, c'est des noms de Hakadosh Baruch Hu. La Torah tout entière est appelée le nom de Dieu. Et alors, ça vous comprendrez pas, je ne vais pas vous expliquer, mais il y a un verset, si vous êtes familier un peu à la prière. Est-ce qu'il y a des Ashkenazim parmi vous? Oui. Les Ashkenazim, avant de lire au Sefer Torah, disent un verset Qui Shem Hashem Ekra Abu Godel Lelokenu. Vous connaissez ce verset? Vous l'avez jamais entendu? Je vous traduis. Qui Shem Hashem Ekra, car je vais lire le nom de Dieu, qui Shem Adonai Ekra, Abu Godel Lelokenu, reconnaissez la grandeur de notre Dieu. Et là, ça vient de la Gemara nous dit, toute la Torah, c'est Shem Shel HaKadosh Baruch Hu. Chaque mot de la Torah, c'est un des noms de Dieu. Quand vous arriverez, je vous souhaite, avant de savoir, on ne savait pas, hein, ne soyez pas paniqués. Tous ceux qui savent, avant de savoir, ils ne savaient pas. Donc, on peut apprendre. Quand vous arriverez à comprendre le texte de la Torah à ce niveau-là, vous commencerez à comprendre mieux ce dont il est question. Il ne faut pas croire que ce que la Torah dit, je l'ai dans la tête, moi, l'homme. Je ne l'ai dans la tête que si ça me vient de l'extérieur de ma conscience par une révélation. Et voilà, nous avons un petit exemple. Je ne prendrai pas beaucoup de temps dans le cours cette année pour vous parler de cet aspect du problème. Chaque mot de la Torah, en tout cas pour les mots importants, on l'étudiera. Il faut bien savoir que ce n'est pas dans la pensée humaine. Je vais donner un exemple en passant. Le mot de Teshuvah, c'est un chidouche de la Torah. Alors on traduit repentir, tout le monde sait que qu'est-ce que c'est que le repentir, parce qu'on l'a appris des prophètes hébreux. Mais quand on arrivera à étudier cette notion de Teshuvah, on s'apercevra qu'elle n'existe pas dans la pensée humaine. C'est appris de la Bible. Vous voyez, il y a eu des milliers d'années d'éducation biblique dans la civilisation humaine. Alors on s'est imprégné d'évidences qui sont vraies parce que la Bible l'a dit. Mais ça ne veut pas dire que ça fait partie de la pensée humaine. Un homme qui n'aurait jamais entendu parler de l'enseignement de la Bible ne peut pas arriver par ses propres forces à des idées comme la création, le repentir, etc. Sinon, c'est une hypothèse, mais il n'aura jamais aucune certitude. Et nous avons eu le privilège, dans l'histoire d'Israël, d'une révélation qui est un événement historique qui nous a enseigné un certain message, la Bible des Hébreux, qui a été transmise aux Juifs par les derniers prophètes des Hébreux. Et il s'est passé tellement de temps de familiarité qu'on risque de croire que ça fait partie de la raison humaine. Ça ne fait pas partie de la raison humaine. C'est révélé. Voilà, si j'ai déjà suffisamment éclairci ça, ça suffit sur cette idée. C'est clair ? Revenez bien là-dessus. Okay ? J'ouvre une parenthèse pour vous dire pourquoi c'est important de savoir ces choses-là. Parce que vous n'êtes jamais demandé comment ça se fait qu'il y a tellement de goyim qui ne croient pas dans la Torah. Vous n'avez jamais découvert ce problème. L'humanité, c'est des milliards d'individus, surtout à travers 6000 ans. Okay ? Et il y a une petite poignée d'hommes, les Talmid et Chachamim d'Israël, qui connaissent la vérité de la Torah. Vous n'avez jamais découvert ce scandale-là. Okay ? Dieu a créé un monde, et puis il y a une petite poignée d'élus, l'élite du monde, comme disent les Français en parlant des Juifs, Israélite. Alors l'élite, c'est nous. Okay ? J'ai compris ça. Et puis de l'autre côté, le monde entier. Ça vous a frappé ? Alors, si c'était une question d'intelligence, ce serait du racisme absolu. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas des Talmid Chachamim, c'est des bêtes, des animaux, ils ne le savent pas, et il n'y a que nous qui sommes normaux. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Vous n'avez jamais découvert ce problème. Donc, c'est que ça ne passe pas par l'intelligence. Ce n'est pas interdit d'être intelligent pour étudier la Torah, au contraire, c'est même recommandé. Mais ce n'est pas par l'intelligence qu'on étudie la Torah, c'est par la Neshama qu'on étudie la Torah. C'est la Neshama qui comprend. L'intelligence est l'outil de la Neshama. Vous avez compris ce que je veux dire ? Nous sommes différents des Goïm par la Neshama, pas par l'intelligence. La preuve, c'est qu'il y a des prix Nobel Goï. C'est bizarre, mais ça existe. Vous avez compris ce que je veux dire ? Comme je vous disais la dernière fois, je commence à penser à vous que je l'expliquais. J'ai beaucoup d'amis chez les goïms. J'ai eu même des professeurs à l'université. Quand ils sont physiciens, ils sont capables d'être brillants. Quand ils sont chimistes, mathématiciens, ils sont capables d'être brillants. Dès qu'ils parlent de religion, c'est le délire. D'où ça vient ? Subitement, ils sont fous. Subitement, ils sont plus intelligents. Non, ils sont goïs, c'est autre chose. Leur neshama n'a rien à voir avec la vérité de la Torah. C'est tout. Ce n'est pas de leur faute en plus. D'abord, il faut avoir beaucoup de compassion pour eux, parce qu'en plus, ils savent que c'est du délire. Si vous savez le nombre de chrétiens, au moins 99% et demi, la moitié du demi, c'est la moitié du pape, la sous-pape. Mais, parce qu'il fait semblant de croire, lui au moins. Mais le nombre de chrétiens qui savent que c'est du délire ce qu'ils racontent, Mais ils sont obligés de croire parce qu'ils sont fabriqués comme ça psychiquement. Nefesh, c'est le nefesh qui est différent, un neshama. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Alors ne tombez pas dans ce risque de racisme intellectuel, de croire que tous les goyim sont des imbéciles parce qu'ils ne connaissent pas la vérité de la Torah. Si la Torah dit « Daber el béné Israël », parle aux enfants d'Israël, le bon Dieu sait ce qu'il veut. Pourquoi il faut parler qu'aux enfants d'Israël ? Les autres, ça ne les concerne pas. Et lui, il sait pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas devenir Israël, mais il faut le devenir. Et quand il y a une conversion de quelqu'un, homme ou femme, qui est né chez les goyim et qui devient Israël, c'est pas par l'intelligence qu'il s'est converti, c'est par son âme. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Vous avez bien compris. Encore une fois, je répète, la tradition juive a mis en évidence l'importance de la connaissance, de l'intelligence. Ça, c'est très important comme outil pour arriver à la connaissance de la Torah. Mais la connaissance de la Torah, c'est pas l'intelligence pure et simple. Si c'était le cas, nous serions des racistes. Ça voulait dire, mais des racistes de la pire espèce. Parce que pourquoi ? Parce qu'on insulte le bon Dieu d'avoir créé des crétins. Enfin, les chrétiens. il sait ce qu'il fait. Il a créé des hommes. Et parmi les hommes, il avait besoin, il a voulu un peuple de prêtres. Il leur a donné une neshama différente qui est compatible avec la connaissance, la vérité de la Torah. Mais ce n'est pas l'intelligence qui est en question. Là. Vous avez compris ? Vous savez que pour être Cohen, c'est héréditaire. Pour être Cohen. Okay ? Vous savez cela. Un jour, quand il y a une blague juive là-dessus, tout à l'heure. Mais être intelligent, ce n'est pas du tout héréditaire. Mais il suffit qu'il y ait une exception et il n'y a pas de règle. Vous savez que le fils de Victor Hugo, vous savez que c'était Victor Hugo, c'était quelqu'un. Hein. Le fils de Victor Hugo était retardé. Mais faguer, comme on dit en français. Retardé. Que... Et donc ce n'est pas héréditaire d'être intelligent. Mais c'est héréditaire d'être homme. Vous voyez la différence de la nature. C'est clair. Oui, à propos de Cohen, on m'a raconté une fois une histoire d'un rabbin américain. Vous savez, les histoires de rabbins américains, c'est spécial. Un rabbin américain, un jour, il y a un de ses fidèles qui vient le voir, il dit, monsieur le rabbin, je voudrais être Cohen. Le rabbin qui dit, si on ne peut pas être Cohen, il faut naître Cohen. Il dit, non, je veux être Cohen. J'ai vu les honneurs que vous faites au Cohen. Il dit, je veux être Cohen. Il dit, on ne peut pas. Il dit, mais je vous donne tant pour votre synagogue. Non. Et finalement, il a donné une somme astronomique. Le rabbin a dit, je ne peux pas refuser une somme pareille pour ma synagogue. Il dit, bon, il a fait une simagré, tu es Cohen. Il dit, maintenant, dis-moi, pourquoi tu veux être Cohen ? Vraiment. Il dit, écoutez, monsieur le rabbin, mon père était Cohen, mon grand-père était Cohen, moi aussi je veux être Cohen. Alors, ça s'est arrangé comme ça. Bon, alors, je reviens au problème. Vous voyez pourquoi c'est important de comprendre que les notions clés de la Torah ne sont pas forcément ce qu'on appelle en français, dans la logique française, rationnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une cohérence, qu'il n'y ait pas une signification, mais il faut l'apprendre pour la comprendre. On ne la comprend pas tout seul. Voilà, c'est clair. C'est-à-dire, Dieu a jugé qu'il nous fallait des prophètes pour nous enseigner ce qu'il nous a enseigné. Et un prophète, ce n'est pas tout simplement quelqu'un qui a des pensées poétiques ou des pensées philosophiques profondes. Un prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu a parlé. Et il faut prendre ça au sérieux. Parce que sinon, toute la Bible, c'est un canular. Si vous prenez un verset comme « Et Dieu m'a parlé en ces termes », de deux choses l'une. Ou bien c'est vrai, ou bien c'est une façon de parler. Mais à ce niveau-là, une façon de parler, vous comprenez le problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes plus dans un temps où la prophétie est une donnée expérimentale. Judas Lévi en particulier dans le Kuzari a expliqué pourquoi. Il y a deux raisons essentielles. Quand la dispersion du peuple d'Israël a commencé en dehors des Rêtes d'Israël, la prophétie s'est arrêtée. Il faut que le peuple d'Israël soit rassemblé sur Israël, sur la terre d'Israël, pour qu'il y ait prophétie. La prophétie ne concerne jamais qu'Eretz Israël. Ça, vous l'étudierez dans vos études. Et même les prophètes qui ont prophétisé en dehors du pays ne prophétisaient que pour Eretz Israël. Quand vous étudierez le commencement de la prophétie chez Abraham, le commencement de la prophétie chez Moïse, la première chose que Dieu leur dit, c'est « Ramène mon peuple sur la terre d'Israël ». Et c'est là que la prophétie se révèle. Et lorsqu'après la destruction du royaume du Nord, le peuple, l'unité de la nation d'Israël était détruite, la prophétie s'est arrêtée. Alors, ça signifie qu'elle recommencera lorsque le peuple d'Israël sera rassemblé, y compris les 10 tribus perdues, sur la terre d'Israël. C'est un processus qui est en cours, et vous remarquez à quel point le monde entier est contre, parce que inconsciemment, ils se rendent compte qu'il se prépare une révolution dans l'histoire du monde, Israël revient sur sa terre, et le monde entier est contre. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, et qu'à lire les journaux. Il y a même des Juifs qui sont contre. Je ne sais pas si vous... Mais ça, c'est du début de notre histoire, il y avait aussi des membres du peuple d'Israël à chaque époque qui étaient contre Eretz Israël. Ça, vous étudierez en étudiant la Bible. Ça peut nous rassurer que ce n'est pas nouveau, cette Echomrim Tofa, cette manifestation d'une hostilité des Juifs à Eretz Israël. Je dirais, le seul fait d'habiter la diaspora, d'habiter l'exil, le seul fait d'habiter ailleurs qu'en Eretz Israël, alors que maintenant, au bout de 2000 ans, on veut revenir. Le seul fait d'habiter ailleurs, c'est ça donne un argument aux ennemis d'Israël, selon lesquels, et c'est d'ailleurs la charte de l'OLP, comme vous savez, selon lesquels le judaïsme, ce n'est pas une nation, c'est une religion, donc nous n'avons aucun droit sur une terre qui est déjà occupée par d'autres. Mais chaque fois qu'un juif habite en dehors d'Eretz Israël, il est l'allié objectif des ennemis d'Israël. Les gens qui habitent à Hutzlaret ne se rendent pas compte. Mais c'est écrit en clair dans la Torah. Vous apprendrez ça chez les prophètes. Je dirais même plus. Il y a eu une époque où les pays arabes étaient les possesseurs du pétrole et des prix du pétrole. Et chaque fois qu'un juif faisait son plein d'essence en Hutzlaret, il ajoutait un obus aux armées arabes. Même s'il était rabbin. Il y a des rabbins qui ont des voitures. Alors, vous voyez à quel point il faut redécouvrir le sens de l'histoire d'Israël. Je reviens au sujet. Alors, je vous ai donné un exemple, réfléchissez bien, sur le mot de Bara, qui veut dire Yesh Ma'in, à partir de rien. L'intelligence humaine n'a pas expérience de cela. Peut-être je dirais un peu plus sur ce point-là. On n'a jamais vu quelque chose apparaître à partir de rien. On n'a pas expérience de cela. Et pourtant, ça existe. Et nous savons que ça existe, premièrement, parce que la Torah le dit, que le monde entier vient du néant. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais c'est un objet de foi. Ce n'est pas la raison. C'est clair ? Je vous ai peut-être donné cet exemple. Prenez, je ne sais pas si c'est à vous que j'ai parlé comme ça, prenez un spectacle comme un coucher de soleil, ou un lever de soleil. Et c'est très beau d'ailleurs à Jérusalem, si vous avez le moment du lever ou du coucher de soleil, c'est d'ailleurs le moment du Kriyat Shema. Regardez le paysage, c'est vraiment très beau. Alors vous aurez des gens qui spontanément diront, eh bien, c'est évident que Dieu existe, si le monde est aussi beau. Alors vous aurez d'autres tempéraments qui diront pas du tout. Ça, c'est la longueur d'onde de la diffraction de la lumière à travers la couche d'atmosphère qui fait qu'il y a telle nuance du prisme des couleurs. Oui. Et qui croit dur comme fer, c'est une preuve de rien du tout. Okay. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est-à-dire, si ça vient de l'observateur, ça ne peut être qu'une hypothèse, cette conclusion. Donc le monde a un créateur, donc le monde n'a pas de créateur. Et d'ailleurs, ceci est mis en forme dans des raisonnements philosophiques que les spécialistes connaissent. Ça n'a jamais convaincu que les gens qui étaient déjà persuadés. Ça n'a jamais persuadé que les gens qui étaient déjà convaincus. Mais c'est d'une toute autre manière que nous savons que c'est vrai. Parce qu'il y a eu la révélation au Sinaï dans l'histoire d'Israël. Et ça, c'est un événement historique, ce n'est pas une hypothèse. L'existence d'Israël, c'est un événement historique. Dans la mémoire d'Israël, il y a l'événement de la révélation du Sinaï. Et au Sinaï, quelqu'un a dit... C'est moi qui ai créé le monde. Et c'est moi qui vous demande tel et tel commandement. Est-ce que c'est clair ? Ça, alors ça, c'est pas une hypothèse. C'est un événement. Et ça, c'est l'enseignement de Judas Lévi, qui est extrêmement fort pour les philosophes. Eh bien, l'idée de la création, ce n'est qu'une hypothèse. Ça ne peut pas être une certitude. Alors, on est tellement familier qu'on croit que c'est une certitude intellectuelle, alors c'est une certitude de foi. Vous avez bien compris le problème ? Et quand on a compris qu'on ne comprend pas, alors on commence à étudier. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre que ça veut dire créer à partir de rien. Mais il y a le kabbaliste qui étudie ça. Et les kabbalistes, faites attention, hein, ce n'est pas des sorciers qui vont faire des simagrées pour trouver un fiancé. Hein. Ce n'est pas ça les kabbalistes, ça c'est des magiciens. Et les kabbalistes, tout à fait autre chose. C'est ceux qui comprennent la Torah dans le sens de l'hébreu des prophètes. Alors que nous, on s'approche de la Torah avec un hébreu de la Macolette. Donnez-moi un paquet de pâtes. Vous voyez ce que je dis ? C'est pas que l'hébreu de l'Ulpan qu'on va comprendre. C'est clair ? Même si les mots ont apparemment le même sens dans le dictionnaire, ça veut dire autre chose. Voilà. J'arrête cette parenthèse. Alors nous avons vu que nous avons un récit où la Torah nous enseigne que le monde créé à partir du néant est à l'état de chaos. Ça aussi, on ne comprend pas. Ce n'est pas logique. Où est la cohérence? C'est Dieu qui crée le monde et le résultat, c'est le chaos. Mais à quel point on ne se rend pas compte de ce qu'on lit, okay? Ça s'étudie. Pourquoi c'est comme ça? Je ne veux pas dire que ça n'a pas de sens. Et on étudie pourquoi ça ne pouvait pas être autrement. Mais il faut être alerté au fait qu'on ne comprend pas. Un jour, si on arrivera à cet exemple que j'aime beaucoup donner pour vous montrer à quel point les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Regardez, c'est un récit majestueux, la création du monde. On est écrasé par ce récit. On ne comprend pas. Vraiment, on n'a pas assisté, on ne peut pas diagnostiquer. Mais c'est un récit d'une cohérence biblique évidente. Dès qu'on arrive à la création de la femme, la Torah nous raconte, apparemment, quand on lit dans les traductions, une histoire bizarre. C'est que le premier homme rentre dans une clinique chirurgicale. Une clinique chirurgicale. On lui enlève une côte qui n'était pas encore née, c'était une côtelette panée. Et puis ça devient une femme.